Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, nous avons vu que Dieu s'est révélé, il nous faut voir maintenant où et comment trouver la révélation avec certitude. C'est une question que Saint Vincent de Lérins s'est posée. Souvent je me suis enquis, dit-il, avec beaucoup de zèle et d'attention, auprès d'hommes éminents par leur sainteté et leur savoir. Je leur ai posé la question, existe-t-il une méthode sûre, générale pour ainsi dire, constante, au moyen de laquelle je puisse discerner la véritable foi catholique d'avec les mensonges de l'hérésie? Et voici la réponse que les hommes sages lui ont donnée et qu'il résume ainsi. Dans l'Église catholique, il faut veiller soigneusement à s'en tenir à ce qui a été cru partout, toujours et par tous. Partout, toujours et par tous. Et dans son petit ouvrage, dont je vous recommande vivement la lecture, il fait l'application notamment à cette grande hérésie qui a enflammé le monde entier, à savoir l'arianisme. Cela est intéressant évidemment pour notre époque, bien que l'hérésie à notre époque semble beaucoup plus répandue encore que celle d'Arius, puisque même Rome est infectée. Mais malgré tout, le critère est posé, et c'est cela qui nous intéresse. Saint Paul nous dit « Comment croire en celui dont on n'a pas entendu parler ?» Comment croire en Dieu si on n'en a pas entendu parler ? Comment en entend-on parler s'il n'y a personne pour prêcher ? Comment ira-t-on prêcher si l'on n'y est pas envoyé ? Autrement dit, il faut un prédicateur officiel accrédité par Dieu. C'est évidemment le seul moyen de reconnaître avec certitude ce qui est la foi et ce qui ne l'est pas. Or, vous le savez, mes bien chers frères, celle qui a été investie de cette mission, c'est l'Église catholique. Qui vous écoute, m'écoute. Qui vous reçoit, me reçoit. Qui vous méprise, me méprise, dit notre Seigneur, en des circonstances particulièrement solennelles, puisqu'il s'agit du Jeudi Saint. Alors maintenant, il ne nous reste plus qu'à demander à l'Église où donne-t-elle son enseignement. Et elle nous répond, par le Concile Vatican I, « On doit croire de foi divine et catholique tout ce qui est contenu dans les Saintes Écritures et dans la tradition, ça c'est ce que nous avons vu la dernière fois, les sources de la révélation, et qui est proposé par l'Église comme vérité divinement révélée, soit par un jugement solennel, soit par son magistère ordinaire et universel. » Autrement dit, vous avez deux moyens de connaître la révélation, soit un jugement solennel de l'Église, soit son magistère ordinaire et universel. Je vous fais remarquer que même la Bible doit être reçue à travers cet enseignement, puisque vous savez que la lettre tue alors que l'esprit vivifie. S'il n'y avait pas ce magistère de l'Église pour nous donner la Bible, nous la garantir et nous l'interpréter, et nous dire le sens authentique, eh bien, cela finirait comme chez les protestants, où chacun a son interprétation. Après cette introduction, il y aura deux parties dans le sermon, tout d'abord le magistère, et puis deuxièmement les erreurs relatives à ces vérités. Premièrement, le magistère, et nous allons voir le magistère ordinaire. Il n'y a pas besoin de chercher des définitions bien compliquées, mes bien chers frères, parce que le magistère de l'Église étant fait pour nous permettre de connaître la vérité, nécessairement, il est clair, il est facile à comprendre, il utilise des mots qui sont précis, mais qui ne sont pas particulièrement techniques, qui sont des mots du langage que nous comprenons. Et donc un magistère ordinaire, c'est le magistère de tous les jours. Alors magistère, qu'est-ce que c'est? C'est l'enseignement. C'est un enseignement, magistère du maître, voyez. C'est également l'enseignement qui veille à la pureté des mœurs ou de la doctrine. Donc l'Église a un magistère parce que elle enseigne et puis elle veille à la pureté des mœurs et de la doctrine. C'est très simple. Cette définition du magistère, on la trouve évidemment dans le dictionnaire latin, puisque le texte de Vatican I est écrit en latin. Mais le mot magistère en français est pratiquement le même. Bien. Ce magistère, lorsqu'il est ordinaire, c'est le magistère de tous les jours. Les catéchismes, l'enseignement des évêques, les encycliques des papes, etc. Pour que nous soyons certains que ce magistère est bien celui de l'Église, il faut qu'il soit universel. Un magistère particulier, un évêque tout seul ou que sais-je d'autre, peut être vrai, ça n'est pas nécessairement faux, mais il n'engage pas l'Église. Or, c'est l'Église qui a reçu les paroles de la vie éternelle et la garantie d'infaillibilité. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde, a dit notre Seigneur, et puis qui vous écoute m'écoute, etc., je vous l'ai déjà cité. Ce magistère universel, c'est ce qui a été toujours cru, reçu dans l'Église. C'est ce que dit Saint Vincent de Lérin, ce qui a été toujours, partout et par tous reçu dans l'Église. Or, nous, qui venons au XXIe siècle, nous avons 2000 ans d'ancienneté de la tradition dans l'Église, et nous pouvons dire que ce magistère est bien dense, complet, il y a 2000 ans de magistère, il est impossible d'ignorer la doctrine de l'Église aujourd'hui. Et puis, le Concile Vatican I nous dit que l'Église nous donne un magistère par jugement solennel. Ah, ça, c'est très intéressant. Pourquoi un jugement? Parce que, bien que le magistère de l'Église soit bien établi et complet, il reste quelquefois des controverses. Soit des hérétiques qui viennent troubler les âmes, soit des théologiens qui posent des questions et cela aussi trouble les âmes, à ce moment-là, il va falloir trancher. Pour trancher, c'est un jugement. On ne tranche pas à l'aveugle, bien entendu. Ce jugement peut être un jugement ordinaire, à ce moment-là, il n'a pas une valeur absolue, ou bien un jugement solennel. Qu'est-ce qu'un acte solennel? Il suffit de prendre le dictionnaire, hein. Un jugement solennel, c'est un acte précis, manifeste et public dont on ne peut pas douter. Ces actes peuvent être portés, ces jugements peuvent être portés soit par le pape, soit par le pape en concile. En dehors de cela, ces jugements ne seront pas solennels et ils ne seront pas universels et ils n'engageront pas l'Église. C'est tellement important, ce jugement solennel du pape, que le Concile Vatican I, dans la constitution Dei Filius, qui suit celle sur la foi, a donné une définition, surtout a donné les conditions qui nous permettent de savoir quand il y a un jugement solennel de l'Église. Il y a 4 conditions. C'est un jugement qui est porté par le pontife romain, lorsque remplissant sa charge de pasteur et de docteur de tous les chrétiens, première condition, il remplit sa charge de pasteur et de docteur de tous les chrétiens. Deuxième condition, il définit, ça c'est très important, il définit, c'est-à-dire c'est précis. Troisième condition, qu'une doctrine sur la foi et les mœurs, ou les mœurs, le domaine de définition, la foi ou les mœurs, pas n'importe quoi. Quatrièmement, doit être tenu par toute l'Église. Et à ce moment-là, il jouit de l'infaillibilité que le Christ a donnée à son Église. Vous voyez, la réponse est très simple à une question très simple. Quand le pape engage-t-il l'Église? Quand suis-je sûr que le pape parle au nom de l'Église? Eh bien, quand ces quatre conditions sont vérifiées, on est certain que le pape engage l'Église, et à ce moment-là, il jouit de l'infaillibilité que le Christ a donnée à son Église. On appelle également ce jugement ex cathedra, c'est-à-dire du haut de la cathèdre, du haut de la chaire. Et certains cherchent à définir ce que veut dire ex cathedra, du haut de la chaire, mais c'est le Concile qui le définit. Il dit un jugement ex cathedra, c'est un jugement porté par le pape lorsqu'il est pasteur, etc., lorsqu'il définit, lorsque c'est la foi et les mœurs, et lorsque il demande à l'Église de le croire. C'est cela, un jugement ex cathedra. Ces jugements solennels, vous en avez eu le dernier par Pie XII, la définition de l'Assomption de la Très Sainte Vierge au ciel, par Pie IX, la définition de l'Immaculée Conception, et puis vous en avez un qu'il faut retenir, qui s'appelle le Syllabus, par Pie IX, qui est un jugement, ou plus exactement une série de jugements, sur les erreurs contemporaines. Pourquoi je vous en parle de celui-ci? Pour deux raisons. La première, c'est que il n'a pas été promulgué à Rome au milieu de tous les cardinaux, évêques réunis pour une grande circonstance. Il a bien été promulgué à Rome par le pape dans un texte public qui s'appelle le Syllabus, qui est très précis. Donc les quatre conditions sont bien réunies. Et donc ce texte est infaillible. Et puis la deuxième raison pour vous en parler, c'est que justement, si le pape Pie IX a produit ce jugement, a porté ce jugement, c'est parce que c'est très important dans notre monde moderne face aux erreurs modernes. Les libéraux ont essayé de dire que le syllabus n'était pas un acte solennel du pape, et donc ils ont troublé les chrétiens. Mais il faut se rendre à l'évidence, les conditions étant remplies, on a là un enseignement de l'Église, et par conséquent un enseignement infaillible comme tout enseignement de l'Église. Deuxième partie, les erreurs maintenant. Alors suite à Vatican I, les catholiques ont accordé au pape une sorte d'infaillibilité personnelle dans tous ses actes. Et cela s'est fait sous une double influence. Tout d'abord la paresse, il faut bien le dire. C'est facile de ne plus avoir besoin de réfléchir. On suit le pape aveuglément, surtout quand cela risquerait de nous mettre en porte-à-faux avec la société de ne pas le suivre. Alors on est d'accord avec le pape, moyennant quoi il n'y aura pas de difficulté, pas de problème. Et puis la deuxième raison, une fausse notion de l'autorité de la société. Cette fausse notion qui identifie l'autorité avec le détenteur de l'autorité. Le magistère de l'Église, ce n'est pas le pape. Le pape exerce le magistère dans l'Église. Vatican I dit qu'on connaît la foi par le magistère ordinaire et par un jugement. Il dit pas on connaît la foi par le pape. Le pape n'est pas l'autorité suprême de l'Église. Il exerce l'autorité suprême dans l'Église ou de l'Église. C'est pas du tout pareil. Et d'ailleurs, Vatican I prend bien soin de le préciser, parce que le Saint-Esprit a inspiré aux pères conciliaires de Vatican I de se méfier de la mauvaise interprétation qu'on pourrait donner de leurs paroles. Le Saint-Esprit, dit Vatican I, le Concile, le Saint-Esprit n'a pas été promis aux successeurs de Pierre pour qu'ils fassent connaître une nouvelle doctrine, il ne s'agit pas de changer la religion. Mais pour qu'avec son assistance, ils gardent saintement et qu'ils exposent fidèlement la révélation transmise par les apôtres, c'est-à-dire le dépôt de la foi. Autrement dit, le pape est un serviteur de la vérité, un serviteur de la foi, et Mgr Lefebvre disait très souvent « la foi est au-dessus du pape ». Ce n'est pas le pape qui est au-dessus de la foi. Il y a une façon assez facile aujourd'hui de savoir, lorsque le pape parle s'il engage l'Église ou non, c'est de voir s'il est conforme à la tradition ou pas. Puisque la tradition, le magistère ordinaire, c'est la tradition. C'est infaillible. C'est ce qui nous permet de connaître la parole de Dieu. Si un pape vient dire le contraire de la tradition, c'est sûr que son jugement n'est pas un jugement solennel qui engage l'Église. Vous me direz, cela en a toutes les apparences, plus ou moins, mais le bon sens ne perd jamais ses droits, hein. C'est le bon père Bariel qui nous disait cela. Quand une vérité est connue, plus personne ne peut la changer. Quand l'Église a parlé, plus personne ne peut dire le contraire. Si l'Église a parlé par un pape, un pape ne peut pas contredire l'enseignement infaillible, solennel. S'il s'agit d'un enseignement ordinaire, ça c'est autre chose. Mais un enseignement défini, un pape ne peut pas le contredire. Si l'Église a parlé par son magistère ordinaire universel, du moment que c'est universel, c'est garanti. Aucun pape ne peut aller contre l'enseignement ordinaire universel de l'Église. Or, il est manifeste aujourd'hui que les papes depuis Paul VI enseignent une nouvelle religion. Ils le disent d'ailleurs. L'Église conciliaire de Vatican II, Saint Pie X les a dénoncés également dans l'encyclique Pachandi contre le modernisme. Ils veulent réformer l'Église de fond en comble, et ils le font de façon sournoise. Alors, suite à ces erreurs, vous avez deux positions. Vous avez la position des papolâtres, qui abandonnent la foi pour ne pas se séparer du pape. Et puis, vous avez la position de ceux qu'on appelle les sédévacantistes. Sédévacantisme est un néologisme qui vient du latin, le siège étant vacant. C'est-à-dire qui affirme que le siège est vacant et que le pape n'est pas pape. Or, c'est triste à dire, hein. Pour affirmer leur conclusion, les sédévacantistes sont obligés de tordre l'enseignement très clair de Vatican I. Ils disent par exemple que Vatican II, c'est un magistère ordinaire universel, et évidemment, puisque c'est faux, du coup, Vatican II serait pas un vrai concile, etc. Ça peut pas être un magistère ordinaire universel, puisque ça dit le contraire du magistère ordinaire universel. Ils disent que le pape est toujours infaillible, et or ce pape-là se trompe, donc ce pape n'est pas pape. Mais il faut n'avoir jamais lu le texte de Vatican I, qui n'a jamais dit que le pape était infaillible en tout, et qui même précise que son infaillibilité n'est pas personnelle, que c'est une infaillibilité qu'il reçoit lorsqu'il montre qu'il engage l'Église. Alors il est très clair qu'on doit s'écarter des papolâtres d'aujourd'hui, parce que cela sinon fait perdre la foi, et il faut également s'écarter des sédévacantistes. Ça, c'est moins clair, parce qu'on se dit, ah, quand même, ils défendent la foi, ce pape-là peut pas être pape, ce pape est un mauvais pape. Pourquoi il faut se défier des sédévacantistes? Vous avez deux types de sédévacantisme. Vous avez une opinion privée, personnelle, de celui qui se dit, cet homme-là ne peut pas être le pape. Très bien, c'est ce qu'il pense. C'est tout. Ça, c'est permis, et Mgr Lefebvre ne l'interdisait pas. Et vous avez ceux qui prétendent imposer cette conclusion à toute l'Église, à tous les chrétiens, à tous les fidèles. Si vous ne croyez pas cela, vous n'êtes pas catholique. Eh bien, la conséquence, c'est qu'on arrive à la secte, avec toutes les caractéristiques des sectes, et notamment le mépris pour ceux qui n'appartiennent pas à la secte. Or, vous avez beaucoup de gens dans l'Église qui, tout en ne s'étant pas vraiment séparés de l'Église moderniste et des modernistes, ont conservé la foi, cherchent à bien faire, cherchent à suivre notre Seigneur Jésus-Christ. Ces gens-là, on ne peut pas dire qu'ils ne sont pas catholiques. Le modernisme a peut-être déteint sur eux, mais écoutez, moi j'en connais, j'en rencontre de plus en plus des gens qui, guidés par le Saint-Esprit, et puis guidés également par le magistère ordinaire universel de l'Église, parce qu'ils ont lu, ont conservé la foi au milieu de l'Église moderne, et malgré les sacrements modernes. La preuve que les sédévacantistes exagèrent et sont vraiment dans l'erreur, c'est que pour eux, Mgr Lefebvre n'était pas catholique, puisqu'il croyait que le pape était pape. Mgr Williamson, enfin les évêques de la fidélité, ne sont pas catholiques, parce qu'ils croient que le pape est pape. La position des sédévacantistes est une ignorance et un refus des conditions de la passion de l'Église. Ils voudraient régler le problème que le Christ ne leur a pas demandé de régler. Même Mgr Lefebvre s'est bien rendu compte que le bon Dieu lui avait donné pour mission de maintenir la foi, mais qu'il ne lui avait pas donné pour mission de nettoyer Rome de tous les modernistes. C'est comme ça? Vous imaginez si Mgr Lefebvre était allé à Rome pour déclarer sur la place publique que le pape n'était plus pape, que les évêques ne sont plus évêques. Il aurait été ridicule. Il aurait fait un mal fou, et puis il aurait rejeté dans les ténèbres extérieures tous ces gens qui, au milieu des difficultés terribles des persécutions morales du modernisme, essayent de surnager vaille que vaille. Que plus tard, des évêques, des cardinaux prient bien gentiment le pape de s'en aller parce qu'il fait du mal à l'Église. Ça, oui, bien sûr, pourquoi pas? Il n'est pas nécessaire qu'un pape soit hérétique pour que les cardinaux le mettent dehors. Il suffit qu'il trouble gravement l'Église, de façon évidente, et l'évidence compte là-dessus, parce que c'est la seule autorité qui permette de juger le pape. Alors très bien, ces cardinaux, ces évêques seront investis par Dieu de cette mission, ils l'exerceront et cela mettra de la clarté dans l'Église. Mais pour l'instant, il est une évidence que Dieu n'a pas donné cette mission à Mgr Lefebvre, et encore moins à Mgr Williamson, et encore moins à Mgr Thomas d'Aquin, Zanderas, etc. Et certainement pas à moi. Voilà, mes bien chers frères, qu'il est bon le bon Dieu de nous avoir donné ces certitudes infaillibles, parce que si l'Église enseigne infailliblement, nous comprenons infailliblement ce que l'Église nous dit. C'est-à-dire que les certitudes que nous possédons sont infaillibles. Et voilà pourquoi vous pouvez, dans la crise actuelle, tout seul, même sans le pape, même sans les évêques, même sans les prêtres, vous pourriez tout seul, avec votre simple catéchisme, avec l'enseignement du magistère ordinaire de l'Église, universel, c'est-à-dire les livres de l'Église, cela vous suffit pour voir où est la voie droite, où est la voie tordue, pour dire au pape, vous avez tort, pour répondre aux évêques qui déraillent, etc. Et c'est cette certitude de l'enseignement de l'Église qui vous communique à vous-même une certitude infaillible, ça nous l'étudions en théologie, hein. Si l'Église est infaillible dans son enseignement, à l'évidence, elle est infaillible dans ce qui est reçu. Parce que si elle enseigne et que c'est compris à l'envers, c'est plus de l'enseignement, et puis on sait plus où est Dieu, et puis ça n'est plus la foi. Et donc l'Église enseigne clairement, et parce que c'est clair, vous comprenez clairement, et parce que vous avez compris clairement et que vous avez des certitudes, et bien ces certitudes vous sont données par Dieu, justement, pour juger ce qui est bon, ce qui est mauvais, et pour discerner, comme dit saint Paul, entre les esprits, l'esprit de Dieu et l'esprit qui n'est pas de Dieu. Faites bien usage de ces certitudes que Dieu vous a données. Il ne vous les a pas données pour rien. Il ne vous les a pas données uniquement pour vous. Il vous les a données pour en faire usage afin qu'elles rayonnent autour de vous, sur tous ceux que le bon Dieu vous a confiés, sur vos familles, sur vos amis, et même, mais ça sera l'objet d'un autre sermon, peut-être un autre jour, sur ceux parmi les modernistes qui voudront bien écouter vos observations et revenir dans la voie droite. Que Dieu vous bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.